Radio Django. Vivre à Lausanne.
Et comme tous les premiers mardis du mois, voici la rubrique consacrée au monde syndical. Jingle.
La pause syndicale.
Nous avions déjà parlé de la prévoyance vieillesse 2020 ou prévoyance vieillesse 2020 en mars avec Geneviève Deram au moment du lancement du référendum par les unions syndicales et les mouvements de gauche vaudois et genevois.
Oui, et celui-ci a abouti avec plus de 70 000 signatures. Donc, nous voterons le 24 septembre prochain sur ce projet Prévoyance Vieillesse 2020 et l'augmentation de la TVA qui lui est directement liée. Pour rentrer dans le vif du sujet, voici un extrait de Mise au point, une émission de la RTS.
Dans cette PME, Christina, la secrétaire, a 56 ans. Elle devra désormais travailler jusqu'à 65 ans. C'est ce qu'a décidé le Parlement cette semaine. Qu'en pense-t-elle ?
À l'heure actuelle, je ne trouve pas forcément très juste. Du fait qu'il n'y a pas cette parité des salaires, si on parle d'égalité, il faut que ce soit l'égalité partout, pour tout. On ne se limite pas au travail, nous les femmes, hein, entre l'éducation, le ménage, tout. On est occupé bien au-delà d'un 100%. Je dirais jusqu'à présent, c'était bien que les femmes soient peut-être mises au repos un petit peu plus rapidement.
Alors, avec notre invité du jour, nous allons tenter de mieux comprendre en quoi cette décision politique impacte sur un parcours de vie ordinaire.
Bonjour Monique Misiego.
Bonjour.
Merci de nous accorder du temps au micro de Radio Django. Tu es technicienne en informatique à l'État de Vaud. Tu nous as autorisé à dire que tu as 60 ans, mère de deux enfants et grand-mère d'un petit garçon de 5 ans. Tu es aussi une militante du Parti ouvrier populaire, le POP.
Bienvenue sur Radio Django.
Merci.
Alors, Valérie. Comme nous venons de le dire, on aimerait en savoir un peu plus sur ton parcours de vie. Peux-tu nous raconter comment s'est passé le début de ta vie professionnelle ?
Alors, j'ai commencé en 74 par un apprentissage de téléphoniste au PTT et puis je suis restée jusqu'en 77. Après, j'ai fait de l'intérimaire, j'ai eu des enfants assez tôt, en 80 et 83. Et puis, j'ai continué de l'intérimaire jusqu'en 87 à peu près, où je suis rentrée au CHUV. Et je suis restée 13 ans au CHUV comme téléphoniste, en faisant des horaires irréguliers, ce qui me permettait d'être avec mes enfants dans la journée, ou le matin, ou l'après-midi, enfin de varier quand même les temps de présence.
Aussi des horaires le week-end ?
Le week-end et la nuit, oui.
Et la nuit.
Ce qui permettait d'être en congé pendant la semaine et puis voilà, de pouvoir suivre mes enfants, comme beaucoup de femmes font ce sacrifice pour pouvoir être avec leurs enfants le plus souvent. Et puis j'ai fait 13 ans au CHUV, puis après j'ai voulu un peu bouger dans le CHUV. Je me suis dit que j'avais des compétences en secrétariat que j'avais eues dans diverses associations. Et puis j'ai cherché du travail dans le CHUV comme secrétaire. J'en ai trouvé, pas très rapidement, mais j'en ai trouvé. Et puis au bout de 2 ans, mon patron m'a proposé de certifier mes compétences en me proposant de faire un article 41 à l'âge de 45 ans, ce que j'ai fait en formation du soir pendant 2 ans.
Un article 41 ?
Un article 41, je crois que ça ne s'appelle plus comme ça. C'est un apprentissage, un cours d'emploi, mais un cours du soir.
Donc, pour avoir les
pour
le
avoir
diplôme
le papier de le CFC d'employé de commerce.
Voilà. Et donc, tu as fait tout ça en étant mère au foyer,
exactement.
Maman,
exactement.
Et épouse.
Et épouse, exactement.
Bon, on voit comme pour beaucoup de femmes, ton parcours n'a pas été linéaire.
Non. Hein.
Que s'est-il passé entre le moment où tu étais employé au CHUV, comme tu viens de nous le dire, comme téléphoniste, et ton actuel emploi de technicienne en informatique ?
Alors, je suis partie, une fois que j'ai eu passé mon CFC d'employé de commerce, je suis partie du CHUV, on voulait voir comment c'était ailleurs. Et puis, j'ai eu un peu de mauvaise expérience, ce qui fait que je me suis retrouvée au chômage. Et puis, j'avais 50 ans, j'ai mis une année pour retrouver du travail. Une année pour... sur une année, j'ai eu 3 entretiens.
Parce qu'à 50 ans, c'est difficile.
Parce qu'à 50 ans, voilà, c'est difficile. Et puis, on ne nous prend déjà plus, surtout pour être réceptionniste. Surtout pour... Ça fait meilleure façon si c'est une petite jeune. Enfin, il y a plein de critères.
Oui.
Et puis, les personnes plus âgées, ben, on coûte cher. Et puis, voilà. Ce qui fait que je me suis dit qu'il fallait que je m'en sorte et puis que je rue dans les brancards. Et puis j'ai commencé à envoyer des CV en mettant pas mon âge et puis en stipulant sur la lettre qu'il n'y avait pas mon âge, que c'était fait exprès. Parce que si mon âge était mentionné, ils allaient forcément le mettre de côté. Et puis je développais un peu plus dans la lettre en disant que j'allais pas les manquer le lundi matin parce que j'avais fait la foire, j'allais pas les poser dans 6 mois parce que je serais enceinte, etc. Qu'une personne de 50 ans, on est quand même plus mûr, on sait pourquoi on est là. Donc forcément, on a une loyauté qui est peut-être plus... Enfin, une loyauté, c'est peut-être trop fort, mais enfin, on peut compter sur nous plus qu'une jeune qui aura pas forcément... Voilà.
Donc, même sans dire ton âge précisément dans la lettre, certains employeurs ont fait
alors,
le pas de...
Alors, ça marchait très vite.
Ça marchait très vite.
Oui, du moment que j'ai fait cette démarche, ça marchait très vite. En un mois, j'ai eu 3 rendez-vous. Puis le premier rendez-vous où je suis allée, ben, ça a fonctionné parce qu'il m'a dit, oui, votre lettre, elle était quand même un peu hard. Puis j'ai dit, ben, c'était quand même le but, c'est de heurter un peu pour montrer que voilà, 50 ans, on n'est pas fini parce qu'autrement...
Il faisait une drôle de tête quand il vous voyait arriver, finalement, de se dire « Ah, bon, en fait, elle n'a pas 25 ans, mais elle en a un peu plus. »
Non, je crois qu'il s'est un peu douté. Il m'a dit, je lui ai dit « Mais pourquoi vous m'avez convoqué ?» Puis il m'a dit « C'était pour voir qui il y avait derrière cette lettre. » Mais après, il m'engage et voilà. Puis ça, maintenant, ça fait 10 ans que je suis là-bas.
Bah, félicitations.
C'est une belle recette qu'on fait passer sur Django.
Oui,
là, c'est ça.
Oui, il ne faut jamais lâcher le morceau. Autrement, voilà. Oui.
On a un deuxième petit extrait. On va l'écouter tout de suite encore, un extrait de mise au point de la radio-télévision suisse.
19h, Fatima Mendes prend son service de nuit. Elle est instrumentiste à l'hôpital d'Yverdon. Cela fait 34 ans qu'elle travaille avec des horaires irréguliers.
Quand on fait une nuit très chargée, le lendemain, on le ressent. C'est pas la même chose quand on avait 30 ans ou même 40. Et puis c'est plus difficile à récupérer.
Voilà, mise au point du 19 mars 2017, Valérie.
Oui, alors Monique, comme tu l'as dit, tu as aujourd'hui 60 ans et tu travailles depuis ton entrée en apprentissage. C'est-à-dire, ça va faire 43 ans de travail, encore plus que cet urgentiste qu'on vient d'entendre. Quels sont ton regard et tes attentes sur la retraite ?
Alors mon regard et puis mon sentiment, il est quand même un peu amer parce que quand je suis rentrée à la caisse de pension en 87, c'est-à-dire à mon entrée dans le CHUV, j'ai reçu une belle lettre en me disant que j'aurai ma retraite en 2019, c'est-à-dire à 62 ans. Donc depuis, on nous a volé 2 ans aux femmes et puis maintenant, on veut de nouveau nous voler une année. Donc voilà, c'est toujours les femmes qui payent, je trouve que c'est pas très correct. Et puis, l'autre chose que je voudrais souligner aussi, c'est que les femmes de mon âge, de ma génération, elles sont grand-mères plus tard. Moi, j'avais une mère qui était grand-mère à 45 ans, elle avait toute son énergie, c'était différent. Mais les femmes de ma génération, on arrive à 60 ans, on est grand-mère, donc on doit aussi, voilà, on a envie, mais on doit aussi s'occuper des fois pour soulager un peu les parents. Et puis, de l'autre côté, on a une génération de nos parents qui vit encore, puis qui ont aussi besoin de nous. Donc, on est vraiment pris entre deux feux, et puis on doit jongler de tous les côtés. Ça, c'est difficile. On a l'énergie à 60 ans. Est-ce qu'on l'aura à 64? Et puis, qu'est-ce qu'il adviendra à 65? C'est ça. Le travail qu'on fait des deux côtés, il a aussi de la valeur. Et puis, il faut aussi qu'on le reconnaisse. Et puis, en nous prenant cette année de plus, moi, je trouve qu'on ne reconnaît rien du tout de ce qu'on vaut. Voilà, on balaye de la main cet appui et puis cette aide qui a de la valeur aussi. Voilà.
Donc, toi, tu as 60 ans maintenant, et si PV 2020 passe, toi, tu es dans la classe d'âge qui fait que tu auras une année de
pile
plus.
Pile poil, oui.
Pile poil.
J'ai des copines qui ont 61 ans, elles vont passer entre les gouttes. Moi, je suis pile poil dans la frange.
Donc, ceux qui vont s'en prendre plein les dents, c'est-à-dire de devoir travailler plus longtemps.
Exactement.
Combien d'années précisément est-ce qu'on estime le changement? Combien d'années en plus de travail?
Ah, une année.
Une année.
Oui, oui. De 64 à 65.
Voilà.
Mais d'accord. Une année, quand on arrive, quand on sent le bout, c'est très long, quoi. Mm-hmm.
Valérie.
En fait, la mise en place de PV 2020 va se faire très vite, c'est-à-dire que dès l'année prochaine, les femmes qui ont 63 ans aujourd'hui devront travailler 3 mois de plus. En fait, ça va se faire progressivement sur 4 ans. Donc, il y aura 3 mois de plus, après 6 mois de plus pour celles qui sont une année plus tard. Et puis, les femmes comme Monique, qui sont à 4 ans de la retraite, elles vont le prendre en plein, c'est-à-dire qu'elles auront carrément une année de plus à faire.
Et tout ça commence à partir de l'année 2018, le 1er janvier 2018.
Oui,
hein. Donc, on rappelle, c'est pour les personnes qui sont nées à partir de 58.
Oui, c'est ça.
1958, oui.
Exact.
C'est ça.
Question à la militante que tu es, Monique, par rapport à cette votation et surtout après tout ce que tu nous as raconté de ta vie de professionnelle, de maman, d'épouse, quelle est ta position par rapport à cette
votation, je suis toujours écœurée parce que voilà, on vient de dire que cette votation, cette décision, elle va être mise en place en 4 ans. 4 ans, c'est peu. L'égalité salariale, ça fait plus de 20 ans qu'elle est inscrite dans la Constitution. Elle n'est toujours pas mise en œuvre. Les femmes gagnent en moyenne 20%, 18 à 20% de moins que les hommes. Et ça, ça fait des années et des années. Et ça continuera certainement des années. Alors, je suis énervée de voir que par moment, on arrive à mettre en place des décisions très, très vite. Et puis, pour d'autres, alors voilà, il y a toujours des empêchements. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et puis, au final, c'est toujours les femmes qui payent.
Oui. Alors, sur la question justement de l'augmentation de l'âge de la retraite, on va encore écouter un dernier extrait où on entendra ce qu'en pense le directeur médical des HUG de Genève.
Donc les hôpitaux universitaires de Genève, oui, qu'on écoute.
Aux hôpitaux universitaires de Genève, le directeur médical constate une hémorragie de départ en retraite avant l'âge légal.
Vous en pensez quoi de ce relèvement de l'âge de la retraite des femmes?
Je n'en pense pas du bien, parce que 40 ans... Dans une profession, prenons l'exemple d'infirmière ou d'aide-soignante ou de sage-femme, c'est beaucoup d'années, comme je dis, au front.
Monique Misiego, pour vous, alors le 24 septembre, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter? Que ce soit accepté ou que ce soit refusé, très clairement?
Que ce soit refusé, très clairement,
refusé,
oui.
Absolument.
Très clairement.
Voilà, pour vous
puis
et pour
les... nous et puis pour tout le monde, quoi, pour toutes les femmes, parce qu'on est encore loin de l'égalité.
Ouais. Valérie, pour les hommes, ça change quelque chose aussi? L'âge de la retraite évolue aussi le 24 septembre?
Non, pour les hommes, l'âge de la retraite restera le même qu'aujourd'hui. Par contre, ce qui va impacter peut-être plus fort les hommes que les femmes, puisque les hommes sont plus nombreux à être bénéficiaires d'un deuxième pilier, voire d'un deuxième pilier confortable, c'est que le taux de conversion va baisser. Donc, à capital égal, il y aurait une baisse de la rente du deuxième pilier si le projet est accepté.
Et il y aura une augmentation de la TVA, qui est un des impôts les plus...
Antisocial.
Antisocial, parce que tout le monde paye la même chose, que tu gagnes 3 millions par jour ou 40 francs, tu payes la même chose de TVA sur toute une série d'articles, etc., qui sont quotidiens.
Voilà, puisque c'est une valeur relative du pourcentage de chaque bien. Voilà donc pour cette votation du 24 septembre prochain. Merci beaucoup Monique Misiego.
De rien, c'est un plaisir.
Une belle soirée, merci beaucoup de votre investissement et du temps que vous nous avez accordé ce soir. On vous tient les pouces pour le 24 septembre.
Oui,
enfin, à
il
vous
faut,
et
il
à
faut,
nous tous,
toutes.
Puisque notre avenir est vous toutes.
Oui.
Je vous propose maintenant à 18h, passé de 15 minutes, de retrouver les habituelles brèves proposées par plusieurs sections syndicales romandes.
Convention collective des transports publics lausannois. La consultation est lancée.
Les négociations pour le renouvellement de la convention collective ont abouti. C'est maintenant aux salariés des transports lausannois de se prononcer sur les résultats de la délégation de négociation juste satisfaisants. Celle-ci invite les membres du syndicat des transports SEV concernés à voter oui à la consultation en cours. Le système salarial est clair et transparent. L'idée de salaire au mérite a été abandonnée. Une semaine de vacances supplémentaires a été obtenue et le congé maternité ne pénalisera plus les femmes dans leur progression salariale. Les résultats de cette consultation des membres seront connus le 26 septembre.
Unia et le personnel de Coop et Migros à Clissier gagnent une première manche contre l'extension des horaires.
Le personnel de Migros et Coop, soutenu par Unia, a réussi à faire reculer les géants orange qui entendaient dès le 28 août ouvrir jusqu'à 20h et même 21h les jeudis et vendredis. Le Léman Centre de Coop et les 3M de Clissier ainsi que plusieurs de leurs succursales de l'Ouest lausannois et de la Riviera. Dès la nouvelle connue, Unia a réagi et protesté contre le fait que le personnel n'avait même pas été consulté. Suite à une pétition qui a circulé dans les magasins, Coop a décidé de faire machine arrière pour entamer une procédure de consultation de ses salariés. Quelques jours plus tard, Migros cédait à son tour. Le personnel de vente voit d'un très mauvais œil de telles extensions des heures d'ouverture qui ne peuvent que péjorer les conditions de vie et de travail. Cela aura notamment un impact important sur la vie sociale et familiale, déjà mise à mal par les ouvertures du samedi, les gardes problématiques pour les enfants et la surcharge de travail avec parfois des semaines de 50 heures.
Unia a réussi à imposer l'interdiction du travail du dimanche des gardes-centres dans toute la Suisse.
Il y a 3 ans, le syndicat Unia a gagné au tribunal cantonal fribourgeois une action contre la maison Schilliger qui voulait ouvrir son enseigne à Matran les dimanches et jours fériés comme elle le faisait déjà dans le canton de Vaud. Schilliger s'appuyait sur une interprétation très souple du SECO, le secrétariat d'État à l'économie, des possibilités de déroger à la loi sur le travail qui interdit d'employer du personnel le dimanche. Le tribunal a contesté cette interprétation du SECO jugée trop laxiste. Concrètement, un magasin de fleurs, denrées périssables et destinées à être offertes dans la journée, peut ouvrir et faire travailler des salariés le dimanche, mais pas les garden centers qui vendent du matériel de jardinage, du mobilier et bien d'autres articles. À la suite de ce jugement du tribunal fribourgeois, le SECO a revu sa copie en mai dernier et indiqué très clairement dans sa directive que les garden centers étaient exclus de l'autorisation d'ouvrir le dimanche. Une décision qui devra s'appliquer partout en Suisse, y compris dans le canton de Vaud.
La grève du biais, 40 ans après.
Un mois de grève au pays de la paix du travail. Tel est le nom du film de Véronique Rotelli, dont la première s'est déroulée le 2 septembre dernier à Neuchâtel. Le film revient sur cette grève emblématique des employés de l'usine Dubié au Val-de-Travers qui se sont battus en 1976 pour préserver leur 13e salaire. Ce film confronte aujourd'hui les acteurs de la grève, ainsi que les non-grévistes, aux images tournées à l'époque et met en perspective le rôle et l'action des syndicalistes de la FTMH, garants de l'ordre et de la paix sociale. Le film est sur les écrans de Châtelois, La Chaux-de-Fonds et de Léman jusqu'au 12 septembre. D'autres projections sont prévues dans d'autres lieux, notamment à Sainte-Croix, en terre vaudoise. Agenda à suivre sur bigsurfilm.ch, lien que vous retrouvez sur le site de l'émission.
Et voilà ce que le monde syndical local nous transmet comme information ce début septembre 2017, période de rentrée, pas seulement scolaire ou encore littéraire, mais aussi politique et syndicale. Merci beaucoup Valérie. Au mois prochain, rendez-vous le mois prochain.
Mais oui, avec plaisir.
Et merci Fabio également. Rendez-vous avant, j'imagine, pour toi. Voilà. Merci à vous deux pour la préparation de ce sujet. Rendez-vous dans un mois, tout juste, hein, comme je le disais, au lendemain d'une date très importante, puisqu'on en parlait ce soir. C'était au menu de cette pause syndicale, la votation du 24 septembre sur la prévoyance vieillesse 2020 et l'augmentation de la TVA qui, lui, est directement liée. Retrouvez ce sujet en podcast sur notre site www.adjango.fm. Musique avec Juliette Gréco.